le magazine des Nations Unies.
Près de la moitié de l'humanité sous la menace de la malaria. En RDC, cette maladie est la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès. Et ce lundi 25 avril, la communauté internationale célèbre justement la journée mondiale de lutte contre le PALU. Mercredi dernier, au cours de la conférence de presse des Nations Unies, un expert de l'OMS RDC a fait le point de cette journée. Le réchauffement climatique pourrait affecter dangereusement la planète qui pourrait atteindre 5 à 6 degrés de température à l'horizon 2050 si l'on n'y prend garde, selon les experts en environnement. Comment la RDC peut-elle prévenir et se préserver de ce réchauffement climatique? La réponse dans cette édition avec un expert du PNUD à l'occasion de la Journée internationale de la Terre nourricière. Enfants tués par des engins explosifs, cela se passe dans l'actuelle province de l'Équateur. L'UNICEF se mobilise et mène des investigations sur le terrain. Objectif, épargner les enfants du danger que représentent ces engins de la mort.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de UN Mag. Le 25 avril, c'est ce lundi, une date consacrée à la célébration de la journée mondiale de lutte contre les palus ou la malaria. En marge donc de cet événement, le docteur Bakary Sambo, en charge de l'unité paludisme à l'OMS RDC, a parlé de cette journée et fait le point de la maladie dans le monde et en République démocratique du Congo. C'était la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa et Honoré Missingakalala était là pour vous.
Le paludisme ou malaria constitue encore un fléau mondial de grande ampleur. Un fléau, selon l'expert de l'OMS, qui menace presque la moitié de l'humanité, soit un peu plus de 3 milliards d'individus dont la majorité se trouve en Afrique subsaharienne, cas de la RDC.
En République démocratique du Congo, le paludisme reste encore la première cause de consultation, la première cause d'hospitalisation et la première cause de décès au niveau du pays. Un élément frappant, c'est que chaque heure, 3 familles au niveau de la République démocratique du Congo sont endeuillées à cause du paludisme.
Néanmoins, toujours selon l'expert de l'OMS, des progrès notables sont visibles dans la lutte contre l'élimination du paludisme en République démocratique du Congo, docteur Bakary.
En matière de lutte contre le paludisme au niveau du pays, le nombre de décès a reculé de 41% en 2010 à 37% en 2014, soit une réduction de 10%. La mortalité infantile, qui était de 92 pour 1000 en 2010, est passée à 58 pour 1000 en 2014, soit une réduction de 44%.
Concernant la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le thème choisi cette année est « En finir pour de bon avec le paludisme », avec comme sous-thème pour la RDC « Zéro cas de malaria dans mon ménage ». Et c'est à Goma a indiqué encore Dr Bakary que se dérouleront les manifestations de cette journée.
Autre actualité, c'est la présence de plus en plus massive des réfugiés du Soudan du Sud dans la province du Haut-Souélé, particulièrement dans le territoire de Dungu, où ces réfugiés sont estimés à 11 000. Mais quid de la situation générale de tous les réfugiés vivant sur les territoires congolais? Les chiffres actualisés fournis par le SR, le Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, toujours avec vous, Honoré Missingakalala.
397 950, c'est le nombre de réfugiés vivant sur le territoire congolais au 31 mars 2016, selon les données disponibles au bureau du ICR RDC. Le Rwanda vient en première position avec 245 052 ressortissants, suivi notamment de la RCA 112 775. Du Burundi, 25 855, du Soudan du Sud, 12 914 et de la République du Congo, 699. S'agissant des réfugiés rwandais, le HCR précise que leur nombre est présenté par le gouvernement congolais comme le résultat d'un pré-enregistrement initial effectué par la Commission nationale pour les réfugiés de décembre 2014 à janvier 2015. Et dans l'entretemps, l'enregistrement biométrique de ces mêmes réfugiés est en cours avec comme premier résultat 35 316 réfugiés rwandais enregistrés au 31 mars 2016. Le HCR ne gère pas que les réfugiés. Son mandat concerne aussi les déplacés internes estimés pendant la même période à 1 555 112 personnes. Pour faire face aux besoins des réfugiés et des déplacés internes au cours de l'exercice 2016, le HCR RDC a fait une demande de 190 millions de dollars américains. Et au 31 mars, l'agence onusienne avait déjà obtenu 13% de ce budget.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le cancer tue dans le monde, mais aussi en République démocratique du Congo. C'est pourquoi les Nations Unies consacrent le 4 février de chaque année à cette maladie, pour s'arrêter un moment, réfléchir sur les moyens de lutter efficacement contre ce fléau. Nous revenons dans cette édition sur l'entretien que Jean-Pierre et Lali Coco a eu avec le docteur Adolphe Kongolo, chargé des maladies non transmissibles à l'OMS en RDC.
Docteur Adolphe Kongolo, bonjour.
Bonjour.
Le monde a célébré le 4 février dernier la journée mondiale de lutte contre le cancer. D'abord, docteur, qu'est-ce que c'est le cancer?
Le cancer, on l'appelle aussi tumeur maligne. C'est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormale et au sein d'un organe normal. Et de telle manière que la survie même de ces tissus est menacée. Au cours de l'évolution de la maladie, certaines cellules peuvent migrer de leur lieu de production et former ce que l'on appelle des métastases. C'est ça même qui menace la vie des patients et entraîne que le dépistage soit vraiment précoce.
Pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on doit retenir?
Pour le commun des mortels, ce qu'il faut retenir, c'est que le cancer, c'est un gonflement, une multiplication anormale des tissus, c'est-à-dire
des cellules
au niveau d'un organe. Au niveau de la peau, tu verras que ça gonfle. Il y a beaucoup de cellules qui gonflent. Au niveau du sein, ça gonfle. Au niveau aussi de l'intérieur de l'estomac, puisque des cellules de tout le corps qui peuvent devenir cancéreuses. Alors, ça gonfle et ça se développe de manière anarchique. Ça prend les autres cellules et c'est un peu ça pour le commun des mortels. Même dans le sang aussi, ça peut faire de la même manière.
Donc, ça peut attraper n'importe quelle partie du corps.
Oui, toutes les cellules.
Ce qui revient qu'il y a plusieurs types de cancers. Est-ce que vous pouvez nous donner ces types de cancers et dire lesquels sont les plus courants en République démocratique du Congo?
Effectivement, nous avons plusieurs cellules au niveau du corps, plusieurs organes. Et il y a plusieurs types de cancers qui peuvent attraper la peau, les yeux, les nez, la bouche, plusieurs. Mais au niveau de la RDC, nous avons quelques petits problèmes au niveau des données, mais nous avons essayé de faire une collecte active des données au niveau de 25 hôpitaux de Kinshasa et du Bas-Congo. Cette collecte nous a permis de voir que le premier cancer qui est le plus fréquent, qui est rentré dans cette collecte-là, c'est le cancer du col de l'utérus. On a pris de manière globale, mais on a vu que c'est ce cancer-là qui était le plus important, suivi du cancer de la prostate chez l'homme, qui était suivi du cancer du foie. Mais le cancer du foie, il y avait 3 fois plus chez l'homme que chez la femme.
Pourquoi, docteur?
Il n'y a pas de registre pour qu'on puisse entrer en profondeur. Mais après, c'est le cancer du sein chez la femme, les cancers des lymphomes. Ce sont, disons, des cellules des glandes, les cancers des glandes. Mais notons qu'en dehors de cela, il y a les cancers du rectum, les cancers d'œsophage, les cancers du poumon.
Il y en a beaucoup.
Il y en a plusieurs.
Et comment s'est fait alors les diagnostics de cette maladie, docteur?
Mais en tout cas, pour diagnostiquer, il faut absolument faire un prélèvement et regarder le type de cellules au niveau du microscope pour voir si ces cellules sont devenues métaplasiques. Pour le commun des mortels, ils doivent savoir que les cellules sont différentes de ce qu'elles étaient normalement. Donc, en principe, chaque type de cellule a une forme et une morphologie bien précise. Mais quand les cellules deviennent cancéreuses, elles prennent une forme qui est différente de la forme originale. Et en ce moment, on trouve que, au lieu, les cellules de cette place devaient être comme ça, mais elles deviennent différentes, et c'est ça qu'on appelle les cellules métaplasiques différentes.
Est-ce que, docteur, quand vous dites que c'est une maladie qui se répand dans notre pays, est-ce qu'il y a moyen de prévenir un cancer?
Oui. Effectivement, les stratégies de prévention, notamment, c'est éviter les facteurs de risque. Et les facteurs de risque le plus important, c'est le tabagisme. C'est le premier facteur de risque le plus important. Il faut éviter le tabagisme. Il faut aussi
éviter la cigarette.
Oui, la cigarette.
Il faut arrêter de fumer.
On a fait beaucoup d'émissions ici. Je crois que le gouvernement a même décrété des espaces non fumeurs. C'est pour, effectivement, lutter contre les cancers.
Et l'autre risque, c'est quoi?
Il y a la surcharge pondérale. Donc, si les gens pensent que quand ils deviennent plus gros, ils deviennent
bonne santé, mais c'est plus dangereux pour eux. Ils sont à risque pour les cancers. Il y a une consommation insuffisante des fruits et des légumes. Puisqu'ici, je vois les gens aiment bien manger seulement la viande, le chikwang, et c'est fini. Non, il faut manger les fruits et il faut manger les légumes. Il y a un manque d'exercice physique. Les gens doivent vraiment faire de l'exercice physique. Il y a la consommation d'alcool qui est aussi à risque. Il y a des infections, comme les infections à HPV. C'est une infection sexuellement transmissible qui est à la base des cancers du col de l'utérus. Il y a l'infection au virus de l'hépatite B. Heureusement pour le pays, puisqu'il y a la vaccination contre l'hépatite B avec le programme élargi de vaccination. Vraiment, c'est ce virus qui est à la base de la majorité des cancers de foie. Il y a les rayonnements ionisants et non ionisants. Mm-hmm. Les rayonnements ionisants, c'est ceux qu'on attrape dans la radiologie. Il faut vraiment que les services de radiologie évitent que ces rayons attrapent et la population et le personnel qui travaille. Et les rayonnements non ionisants, ce sont les ultraviolets et autres, surtout pour les albinos qui sont beaucoup plus à risque s'ils sont exposés au soleil. Il y a aussi les pollutions de l'air des villes. Il y a les fumées à l'intérieur des maisons et même l'utilisation de combustibles solides à l'intérieur des maisons est très dangereux. Donc il y a plusieurs facteurs, les insecticides et les autres qui sont des facteurs de risque. Et là, il faut les éviter. Mmh. Et aussi, dans les stratégies, il faut aussi vacciner.
Il faut la vaccination.
Il faut vacciner contre le papillomavirus. Il faut vacciner contre l'hépatite B. Il y a certains risques professionnels pour les gens qui travaillent, par exemple, dans les mines. Ça, ce sont des choses qu'il faut faire pour prévenir.
Alors, l'année dernière, donc en 2015, le gouvernement congolais projetait un dépistage des masses du cancer. Qu'est-ce que cela veut dire? Et où en sommes-nous aujourd'hui avec cette initiative, docteur?
Oui, effectivement, le dépistage de masse de cancer, c'est une opération qui vise à repérer les personnes qui présentent certaines anomalies évocatrices des cancers. Ici, chez nous, le gouvernement voulait le faire pour le cancer du col et du sein. C'est de voir des gens qui présentent déjà des signes de ces cancers afin de confirmer si ça n'est le cas. Le traitement précoce peut sauver les vies. Et il y a aussi, pour le cancer du col, des lésions qu'on appelle des lésions précancéreuses. Ce sont des lésions qui vont évoluer vers le cancer, qui n'est pas encore le cancer. Et si on les détecte chez les femmes, en ce moment, on coupe ces lésions et on protège. Cette femme ne feront pas de cancer. Voilà pourquoi le gouvernement a voulu faire ce dépistage. Et je crois que l'OMS va voir comment aider à mettre en place ça.
Parlons maintenant de la prise en charge des personnes atteintes du cancer, docteur. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, il y a un système de prise en charge des malades jusque-là?
Organisé, pas encore au niveau national, puisque nous n'avons pas encore un centre de cancérologie, mais il y a quand même des hôpitaux qui prennent en charge, des cliniques universitaires. Il y a le centre Nganda, où Dr Soulo a fait beaucoup d'efforts, même à mener un appareil de radiothérapie.
Et à l'intérieur, il n'y en a pas?
À l'intérieur, vraiment, il y a encore beaucoup de difficultés dans la prise en charge de cette maladie.
Et docteur, Radio Capi vous remercie.
Merci beaucoup.
Ouvrons cette page avec cette nouvelle. Bientôt, les éleveurs des grillons et autres insectes comestibles à Kinshasa et dans l'ex-province de Bangoundou. Il s'agit d'un projet pilote exécuté par la FAO. Un projet intitulé « Appui à la promotion de l'élevage des insectes comestibles et de l'entomophagie en République démocratique du Congo ». 40 maîtres formateurs des organisations des producteurs et des écoles d'agriculture et élevage de ces deux provinces ont été formés à Kinshasa cette semaine sur les techniques d'élevage, de transformation et de conservation des grillons appelés en Lingala Makelele. À leur tour, les 40 occuperont prochainement de la formation de 200 éleveurs professionnels dans ce domaine. Changeons de cap vers Mbandaké à présent dans la province de l'Équateur pour signaler la remise officielle jeudi dernier du bâtiment du quartier de la femme de la prison centrale. Ceci à l'issue des travaux de réhabilitation réalisés par le programme pluriannuel d'appui à la justice avec le soutien de la MONUSCO et du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Ce projet vise à améliorer les conditions de détention et la sécurité des femmes, également à favoriser leur réinsertion socio-économique. Suite au délabrement du quartier des femmes, ces dernières étaient contraintes de partager la même cour avec les hommes, avec toutes les conséquences. Enfin, découvrons avec ce communiqué de presse qui vient de nous parvenir à partir de Goma, Messicorps est heureux de confirmer que les 5 employés qui ont été enlevés en République démocratique du Congo ont été libérés et sont désormais réunis avec leur famille. Nous mettons en œuvre toute l'assistance médicale nécessaire pour leur bien-être et continuerons à soutenir leur famille. L'équipe avait été enlevée à bord de son véhicule le 17 avril lorsqu'elle effectuait une mission d'évaluation sur le terrain. Messicorps remercie tous ceux qui ont permis le retour de notre équipe dans les meilleures conditions possibles. Un communiqué signé Alexandra Jonard.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Idiss Baltina Moula est l'invité de ce dimanche. Il est expert et conseiller chargé des changements climatiques au PNUD RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco au sujet des changements climatiques justement à l'occasion de la Journée internationale de la Terre qui intervient le 22 avril de chaque année. Suivez leur entretien.
Monsieur Idiss Baltina Moula, bonjour.
Bonjour.
La journée de la terre nourricière, c'est le 22 avril. Alors, nous allons nous entretenir avec vous sur le changement climatique. D'abord, qu'est-ce que c'est un changement climatique?
Le climat est défini par plusieurs paramètres. Il y a la température, la pluviométrie, l'ensoleillement, l'humidité, la vitesse du vent. Alors, tous ces éléments-là constituent ce qu'on peut définir comme climat. Mais les experts intergouvernementaux sur le climat sont formels là-dessus en disant que le climat de la Terre est en train d'être varié. Et cette variation va dans le sens de l'augmentation de la température. C'est l'homme qui est à la base de cette augmentation de la température. Ensuite, la dernière chose qu'il constate, c'est que les conséquences seront sans pitié pour l'humanité tout entière.
Et on parle généralement aussi des gaz à effet de serre. À quoi renvoient ces concepts?
Oui, quand je parle souvent avec les enfants, avec mes enfants particulièrement, je leur montre seulement ce que dégagent les tuyaux d'échappement des voitures. Ce que dégagent également aussi les cheminées dans des industries, dans des entreprises. En fait, ces émissions-là font partie des gaz à effet de serre. Mais il y a globalement 4 types de gaz à effet de serre. Nous avons les dioxydes de carbone qui constituent la grande partie des gaz à effet de serre. Nous avons effectivement les gaz méthane. Nous avons les gaz également émis par nos frigos, par nos climatisations. Mais nous avons aussi les gaz qui viennent également de l'utilisation de la manipulation des engrais qu'on appelle aussi l'azote. Donc aujourd'hui, les gaz à effet de serre sont des émissions très très importantes. Et vous avez aujourd'hui comme unité qui est utilisée, c'est les gigatonnes. Vous vous imaginez, gigatonnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 milliard de tonnes comme unité de mesure. Et déjà une tonne, ça vous fait en soi 1000 kilos. Donc aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre sont estimées en termes de gigatonnes.
C'est ce qu'on appelle aussi les CO2?
Bien sûr, CO2 c'est une des catégories, mais c'est la plus importante parce que ça représente à lui seul comme 56% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, par rapport à cette question, on peut dire aujourd'hui que l'évolution qui a été constatée, c'est qu'au début du 19e siècle, on était encore à 2 milliards des émissions de gaz à effet de serre. Et nous sommes passés tout au début du 21e siècle, c'est-à-dire jusqu'en 2010, on est passé de 2 milliards à 30 milliards des émissions de gaz à effet de serre.
C'est énorme.
C'est énorme.
Alors, la célébration de cette journée, cette année, coïncide avec la cérémonie de signature de l'accord de Paris sur le changement climatique. À titre de rappel, que vise l'accord de Paris et quel impact peut avoir alors cette signature par les 196 États partis de la Convention de Paris?
Merci beaucoup pour cette question très très importante. Je l'ai dit, au début du 21e siècle, jusqu'en 2010, nous sommes passés de 2 milliards à 30 milliards. Les scientifiques sont formels. À cette allure, pour arriver à 2050, nous serons peut-être à 100 milliards, à 150 milliards de gigatonnes. Et déjà, cela va affecter sensiblement les climats. On va aller à 6 degrés, à 5 degrés d'augmentation des températures. Des conditions de vie vont être insupportables pour l'humanité.
Et l'accord de Paris?
L'accord de Paris, justement, vise à stabiliser l'augmentation des températures à 2 degrés Celsius. Ça, c'est les degrés qui permet à ce que l'homme continue à mener une vie convenable sur la Terre. Et pour y arriver, il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre à partir de 2020, de 40 à 70% d'ici à 2050 ou à 2100. Et donc l'accord de Paris, c'est vraiment pour nous sensibiliser.
Et la signature par les États membres aura quel impact?
Signature, c'est qu'on veut vraiment s'engager, qu'on veut tourner une page à un long processus de négociation pour passer à l'action. Vous savez que ça fait 20 ans qu'on négocie sur les accords, sur les climats, après les protocoles de Kyoto. Et cette fois-là, nous avons un protocole qui nous engage tous au niveau de l'humanité.
Le thème de cette année, en rapport avec la journée de la Terre, c'est « Des arbres pour la Terre ». Quel rapport entre les arbres et les changements climatiques?
Mais les arbres jouent un rôle très très important. Vous savez, les arbres eux-mêmes séquestrent, capturent environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. Parce que les émissions, comme je l'ai dit, les 30 milliards de gigatonnes qui sont émis sont quelque part stockées dans l'atmosphère. Donc ce sont les arbres et la forêt, comme celle de la RDC, qui permet justement d'absorber des gaz à effet de serre et donc de tempérer sur les réchauffements climatiques. Là, nous dirons même que la richesse, si vous voulez bien me croire, la plus importante de la RDC, c'est même sa forêt. 45 millions d'hectares de forêts de la RDC, je crois que c'est le patrimoine le plus précieux. Au-delà des mines, tous ces blocs pétroliers qu'on est en train de découvrir au pays, vraiment c'est cette forêt qui constitue un patrimoine renouvelable et qui offre une biodiversité riche avec des espèces endémiques.
Ça pourrait épargner la RDC, par exemple, des effets négatifs du changement climatique.
Si la RDC gère très bien son patrimoine forestier, et la RDC paye dans son sein, développer ce qu'on peut appeler un microclimat qui va effectivement permettre à ce que les conditions de vie au niveau de la RDC soient assez acceptables indépendamment de ce qui se passe. Mais bien sûr que la RDC va être affectée parce que les changements climatiques, c'est mondial, ça affecte tous les pays au niveau mondial, bien sûr.
Oui, selon les groupes d'experts intergouvernementaux sur le climat, les 49 pays moins avancés sont le plus affectés par les changements climatiques. Donc comment expliquer ces phénomènes alors que ces pays produisent moins de 10% de gaz à effet de serre?
Je dirais même que les pays moins avancés produisent jusqu'à 5% des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'il faut regarder les États-Unis, ça fait 17%, la Chine 24%, l'Union Européenne 10%. Si vous mettez les trois groupes là, nous avons autour déjà des 50-53%. C'est pour ça qu'on dit la question de la responsabilité limitée, commune mais différenciée en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Les Africains ou les pays moins avancés ne sont pas responsables, mais sont victimes.
Et puisque nous sommes victimes, comment on peut compenser cela?
L'accord de Paris justement dispose dans son contenu également des éléments importants pour appuyer, pour soutenir les efforts d'adaptation. On ne peut pas aller à l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions, s'il n'y a pas des efforts qui sont engagés du côté de l'atténuation. Atténuation, c'est-à-dire réduire les émissions. Il faut aider les pays à survivre, à surmonter les défis des changements climatiques aujourd'hui. Donc, il y a un fonds d'adaptation qui va être également accompagné l'accord de Paris. Parce que la mise en œuvre de l'accord de Paris ne peut pas se faire sans ressources, sans fonds verts, comme on est en train de le dire.
Revenons en République démocratique du Congo. Parlons de deux phénomène qui résulte du changement climatique en RDC. D'abord, il y a la sécheresse et bien sûr les précipitations. L'année 2015 a démontré que ces deux phénomènes ont un impact sur la vie des Congolais. Comment expliquez-vous cela?
Oui, d'accord. On a vu par exemple au mois de novembre et décembre de l'année dernière. En une semaine ou deux semaines, nous avons connu des précipitations intenses. En deux semaines, nous avons enregistré environ 450 mm d'eau. Comme première conséquence, c'est la surhumidité du sol. Et donc ça a affecté les semences. Il y a eu des problèmes au niveau de l'agriculture, il y a eu des inondations que nous avons connues, il y a eu des ravages avec des moustiques, tout ce qu'on peut imaginer avec les inondations.
Là, il faut prévenir.
Bien sûr, il faut prévenir, il faut justement mettre en place des alertes, comme on dit, précoces, des systèmes d'alerte.
Mais un autre phénomène, c'est la sécheresse.
Ça, c'est également un élément très important. On est en train de voir sa progression. En République démocratique du Congo, il y a toute la partie du sud du Katanga qui connaît effectivement une progression des zones arides. Mais si on fait attention avec notre système agricole, nous allons effectivement arriver à ce qu'aujourd'hui le désert du Sahara connaît. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était également une zone très boisée.
Voilà, monsieur Chinamoul, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
L'on a assisté ces derniers temps dans le nord Équateur au drame d'enfants tués par des engins explosifs ramassés et manipulés. Inquiet, l'UNICEF effectue depuis quelques jours une mission d'investigation pour faire l'état de lieu de cette situation. La mission de l'UNICEF était notamment à Gemena, où elle a rencontré les autorités locales, politiques et militaires, ainsi que les responsables de l'ONG API. Le point avec Dominique Olombi Mongapange.
Depuis la fin des deux guerres dont le Nord-Équateur a été le champ de bataille, plusieurs enfants ont perdu la vie en manipulant des engins explosifs non explosés abandonnés par les combattants. Il y a trois mois, trois enfants qui revenaient des champs sont morts dans les territoires de Yakoma au nord Ubangi par l'explosion d'une grenade qu'ils avaient ramassée. L'UNICEF, dans son programme de protection de l'enfant axé sur l'éducation au risque des mines et reste des explosifs de guerre, entend faire une cartographie des sites où se trouvent ces engins. C'est dans ces cadres que la mission de cette agence des Nations Unies a échangé avec l'ONG Atimine API, Association pour la protection de l'environnement intégral, qui opère au nord et au sud de Bangui. Pour Noël Bopalangi, coordonnateur de cette ONG, malgré les nettoyages déjà effectués par l'ONG MAG, API a identifié d'autres sites qui abritent ces engins, notamment des obus abandonnés à Dongo et au village de Boyenga dans les territoires de Kungu. D'autres engins explosifs non explosifs sont localisés à Kawele et à Gbadolite, dans les sites de l'ancienne résidence du maréchal Mobutu et dans les territoires de Mobaye et de Yakoma. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapange, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Que peut faire la MONUSCO dans le cadre de la mission des bons offices face au blocage de la mise en place du comité préparatoire? Question posée mercredi au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Suivez plutôt la question et la réponse de Charles Bambara, directeur de l'information publique et porte-parole ad intérim de la MONUSCO.
Je reviens sur le dialogue, notamment la mise en place du comité préparatoire. Nous constatons, depuis l'annonce de cette mise en place, un certain blocage. Chaque partie veut se tirer la part du lion. Il y a ceux qui ne sont pas contents du quota qu'on leur a accordé. Alors, en quoi consisterait le bon office dont parle la résolution 2277 que la MONUSCO pourrait offrir dans le cadre du dialogue, surtout pour débloquer la mise en place du comité préparatoire qui doit en principe déclencher le début du dialogue?
Il y a beaucoup de choses qui se passent en réalité qui ne sont pas toujours portées à la connaissance des médias, mais je peux vous dire par exemple que suite à ce que vous appelez les blocages au niveau du comité préparatoire, le représentant spécial monsieur Sidi a rencontré ici dimanche dernier les représentants du G7 et de la dynamique de l'opposition pour discuter avec eux et puis pour essayer de voir si on peut effectivement aplanir un certain nombre de divergences politiques qui empêchent les uns et les autres d'aller non seulement vers le dialogue mais aussi de se mettre d'accord sur la mise en place de ce comité préparatoire. Beaucoup d'autres rencontres ont été organisées, je prends comme exemple cette dernière rencontre de dimanche, mais il ne me revient pas à mon niveau de dire un peu ce que M. Sambo Sidikou a discuté avec l'opposition politique, en tout cas dans ce pays. S'il en sent le besoin, il le fera lui-même. Je peux vous dire qu'au-delà de ses rencontres avec l'opposition, il rencontre régulièrement les partis de la mouvance providentielle, il rencontre régulièrement les acteurs de la société civile, il est en constante communication directe avec M. Edem Kodjo pour savoir ses besoins, pour savoir l'appui qu'il attend un peu de la MONUSCO. Voilà, il se passe beaucoup de contacts un peu en arrière-plan sur toutes ces questions pour faire avancer vraiment la cause du dialogue, pour faire avancer en tout cas la mise en place éventuel de ce comité préparatoire qui doit enclencher tout le processus.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Moukand Matant, Chris. Je suis marié depuis près de 10 ans à Nathalie Kaja Chidibi Moukand, qui m'a fait des jumeaux, d'où mon petit nom de Chamboui. Je suis gradué en gestion financière et comptable informatisé après un essai interrompu en relations internationales à l'université de Lubumbashi. J'ai pris la résolution de compléter mon cursus dans la faculté au masculin de droit. J'espère en sortir au bout d'un temps au manteau noir dans la magistrature assise ou debout. J'ai acquis un basic en technique de l'audiovisuel après une série de formations auprès de quelques organisations de renom, ce qui me donne les assises nécessaires à la profession que j'exerce pour le moment. Je suis journaliste producteur à Radio Kapi, antenne d'Ombourgemaï, dans la nouvelle province du Kasaï oriental. Chaque jour, j'arrive au bureau à 8h d'Ombourgemaï. J'attends 8h30, soit pour 7h30 de Kinshasa, heure de début de la conférence de rédaction du matin à Radio Kapi. Mon tour arrivé, je propose et défends mes sujets afin de me frayer une place au conducteur de différentes éditions d'information de la journée, la mi-journée et le soir. À la rigueur, un sujet pour les news, un deuxième pour la converse de tour de province. Vous aurez remarqué que j'arrive au bureau 30 minutes avant. Le temps de passer quelques coups de fil pour dénicher les sujets qui font l'actualité dans les différents coins, non seulement les localités du Kasaï oriental. Je me charge de trois provinces issues du démembrement du Kasaï oriental, soit le Sankuru, la Lomami et bien entendu le Kasaï oriental. Pour l'instant, on peut dire que c'est des cinq provinces dont je m'occupe. André Kambala, mon collègue de Kananga, est en tant que congé, je me charge également de sa juridiction. Avant de rejoindre la division de l'information publique de la MONUSCO, anciennement MONUC, j'ai fait quelques stages professionnels dans plusieurs structures locales. En 2000, j'ai été sollicité pour faire partie de l'équipe des pionniers qui devait lancer en Bourgimaï une chaîne de radio et de télévision appartenant à un opérateur économique œuvrant dans le monde du diamant. Ce que j'ai fait, durant 5 bonnes années, j'ai exercé plusieurs fonctions à la radio-télévision de Bukassaï, RTDK.
journaliste reporter, présentateur des journaux parlés et télévisés, opérateur, preneur de son et de vue, metteur en onde, chef des services programmes radio et télévision, chef des services régie, rédacteur en chef et bien d'autres. J'aime manger le foufou aux légumes. Je ne suis pas très friand de viande rouge. Un beau morceau de Thompson ou chinchard, ça commode bien à mon repas. J'aime manger très épicé. Le sport, je n'ai pas beaucoup de temps. Quelquefois, je profite du gymnase qu'il y a au quartier général pour faire de la relaxation, les abdos et puis quelques coups secs au billard. La musique, j'écoute toutes les jolies sonorités, locales, nationales ou internationales. Sexual Healing de Marvin Gaye, je trouve ce morceau trop parfait. Le week-end, je me permets quelques escapades en compagnie des complices. Je pense basculer vers le web, créer un journal en ligne. D'autre part, je rêve toujours de devenir un doctrinaire en droit. Inch'Allah.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitule.
À vos agendas, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, nous l'avions dit en tout cas, que ce 25 avril, ce lundi donc, c'est la journée mondiale du paludisme. Mais le 28 avril, c'est plutôt la journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. Et c'est ainsi que se termine ce magazine des Nations Unies qui a été supervisé par Martin Sebujangwe, à la coordination et au reportage Jean-Pierre et Lali Coco, au reportage également Honoré Missenga, André Mungu en a assuré la mise en onde et à la présentation, c'est moi, Tina Salama, le plaisir a été le mien. On se dit à très bientôt. Ciao.